L'image classique d'une descente en kayak, en plein été, c'est vraiment l'improvisation totale. On loue une coque en plastique, on se laisse porter par l'eau, et c'est l'aventure à l'état brut.
C'est vrai que c'est l'illusion parfaite. On aime bien s'imaginer que la nature s'offre à nous de manière brute, sans aucun filtre.
Sauf qu'en compilant nos sources pour la plongée d'aujourd'hui, on découvre une réalité complètement différente, en fait.
Ah oui, carrément?
Donc, on a épluché des rapports hydrologiques du service public de Wallonie, des études environnementales et des bilans du tourisme local.
Et tout ça pour explorer la Semois. C'est une rivière du sud de la Belgique et notre mission, c'est vraiment de révéler la machinerie à la fois algorithmique et écologique qui contrôle tout ça.
Ouais, on est très loin du batelier qui regarde le ciel pour deviner le courant. Aujourd'hui, on parle de la fameuse smart data.
C'est ça, chaque coup de pagaie est surveillé. C'est pas juste un petit capteur qui te donne le niveau de l'eau, hein.
D'accord. C'est plus complexe que ça, du coup.
Exactement. C'est un algorithme qui va croiser des données en temps réel avec un historique pour vraiment anticiper les conditions. Par exemple, il prend un débit très précis, disons 8,25 mètres cubes par seconde.
Ce qui semble déjà hyper précis.
Oui, mais il y ajoute aussi la température de l'eau, et c'est là que ça devient fou, la force du vent, pour générer un score de difficulté sur 100.
Mais attends, pourquoi le vent, sur une rivière entourée d'arbres, s'ajoute tant que ça?
Bah, en fait, un kayak à fond plat, c'est super léger. Si on a un vent de face un peu fort, la coque fait littéralement l'effet d'une voile.
Ah, l'embarcation est repoussée en arrière.
C'est ça. On met poussé à contre-courant. Et pour la température, une eau glaciale, ça transforme un simple chavirement en vrai risque d'hypothermie.
Donc l'algorithme calcule un temps de parcours dynamique, c'est presque un Waze pour les kayaks?
Tout à fait, c'est une excellente comparaison.
Mais est-ce que cette surinformation, le fait de tout micro-gérer, ça tue pas un peu l'esprit d'aventure?
Ça tue l'idée romantique, ouais. Mais il faut bien comprendre que ce système n'est pas là juste pour éviter quelques courbatures aux touristes. C'est avant tout un bouclier vital pour la rivière.
Un bouclier? C'est-à-dire qu'il y a des règles écologiques strictes derrière?
Exactement. Par exemple, au-dessus de 50 mètres cubes par seconde, l'algorithme bloque tout.
Parce que c'est dangereux pour les gens?
Oui. La masse et la vitesse de l'eau créent une telle énergie cinétique que si on tape un rocher, ça devient mortel.
D'accord. Donc le plafond, c'est pour notre sécurité. Mais nos sources montrent que c'est surtout le seuil inférieur qui est le plus implacable.
Ah oui, sous 2,2 mètres cubes par seconde, c'est terminé. Plus personne sur l'eau. Sans parler des couvre-feux le soir.
Ouais, pour sanctuariser la rivière et laisser des oiseaux, comme le martin-pêcheur, chasser tranquillement.
Voilà. C'est vraiment pensé pour la faune.
Mais je me fais l'avocat du diable une seconde. Interdire une rivière parce qu'il manque 3 cm d'eau, c'est pas un peu extrême? Je veux dire, quelques kayaks en plastique qui raclent des cailloux en été, est-ce si grave?
C'est même catastrophique en fait. Quand l'eau est au plus bas, en période d'étiage, le fond du lit abrite ce qu'on appelle la faune benthique.
La faune benthique, donc les insectes et les micro-organismes collés aux rochers.
Exactement. Et le truc, c'est que ce gravier sert aussi de frayère, donc les nids où les poissons pondent leurs œufs.
Ah ouais, je vois le problème.
Quand un kayak frotte le fond avec le poids de la personne, ça n'effleure pas juste la pierre, ça agit comme un véritable bulldozer.
Oh la vache! Ça écrase tout.
Oui, ça broie les œufs dans les interstices, ça asphyxie les micro-organismes, et avec des centaines de passages par jour, on détruit la base même de la chaîne alimentaire.
C'est fou, ça change complètement la vision qu'on peut avoir d'une simple balade sur l'eau. Ce petit frottement inoffensif a un impact mécanique dévastateur.
C'est clair. Et ça nous amène au grand paradoxe de la région. Quand l'algorithme ferme la rivière pour protéger tout ça, c'est l'économie locale qui s'effondre.
Parce que le tourisme là-bas, c'est vraiment une monoculture, non?
Totalement. S'il y a une sécheresse prolongée, l'activité est terrassée. Les revenus dépendent complètement de cette hydrologie.
Et cette dépendance viscérale à l'eau, on l'a trouvée super bien illustrée dans les documents avec le pont de Claise à la forêt.
Ah oui, cette structure est fascinante. C'est de l'ingénierie vernaculaire pure.
Ouais, donc un pont pensé par les locaux, avec des matériaux du coin, genre du chêne, et des branches de noisetiers tressées. Ce qui est dingue, c'est qu'il est monté chaque été, puis démonté avant l'hiver.
C'est ça. Au lieu de couler du béton pour dompter la rivière, l'architecture accepte de s'incliner face au cycle de l'eau.
Mais le détail qui m'a vraiment marqué, c'est ce qui s'est passé lors des crues historiques de 2021. L'eau est montée d'un coup, en plein été.
Normalement, le pont aurait dû être complètement pulvérisé.
Exactement. Sauf que les locaux avaient anticipé en cachant des câbles d'acier à l'intérieur. Sous la pression de l'eau, le pont s'est scindé en deux, intentionnellement.
Et les deux moitiés sont restées accrochées aux berges. C'est une métaphore incroyable de la résilience locale. Plier et se diviser pour ne pas rompre.
C'est brillant. Et finalement, la SMOA, c'est le parfait laboratoire de cette friction moderne entre d'un côté protéger un biotope très fragile et de l'autre exploiter une ressource touristique vitale.
Le tout étant géré et arbitré au litre d'eau près par la technologie, oui.
Ce qui nous amène à une pensée un peu provocatrice pour clore cette plongée. Avec l'accélération du dérèglement climatique, est-ce que nos futures interactions avec le monde sauvage seront systématiquement dictées par des algorithmes ?
C'est la grande question. Est-ce qu'on devra regarder un écran chaque matin pour savoir si la nature a décidé d'être ouverte ou fermée au public ?
Exactement. Une sacrée réflexion pour la suite.